Leng, quel que soit le secteur de l'espace ou du temps où il se situe, n'était pas une région que je souhaitais approcher, et je n'appréciais guère non plus la proximité d'un monde capable de donner naissance à des monstruosités archéennes aussi ambiguës que celles dont Leike nous avait parlé. J'ai alors regretté d'avoir lu l'aboré Necronomicon et d'en avoir tant discuté à l'université avec Wilmart, folkloriste à l'érudition troublante. Cette humeur a probablement amplifié ma réaction au mirage bizarre qui est tombé sur nous depuis le zénith, de plus en plus opalescent, alors que nous nous rapprochions des montagnes et commencions à distinguer les ondulations des premiers contreforts. Ces dernières semaines, j'avais vu des dizaines de mirages polaires, et certains d'entre eux étaient aussi étranges et incroyablement détaillés que l'exemple que nous avions devant les yeux. Mais celui-ci avait une qualité inédite et obscure de symbolisme menaçant, et j'ai frissonné en voyant le labyrinthe frémissant de murs, de tours et de minarets fabuleux qui émergeaient des nuages de vapeur glaciale au-dessus de nous. L'effet était celui d'une ville cyclopéenne d'architecture inconnue de l'homme et de son imagination, avec de vastes blocs de maçonnerie d'un noir de jais, où s'incarnait une perversion monstrueuse des lois géométriques et atteignant de grotesques extrêmes de bizarrerie sinistre. Il y avait des cônes tronqués, parfois pourvus de terrasses ou de cannelures, surmontés de grands piliers cylindriques, s'élargissant de temps à autre en bulbes et souvent couronnés de plusieurs étages de minces disques festonnés et d'étranges hélices constructions tabulaires suggérant des empilements de dalles rectangulaires, de plateaux circulaires ou d'étoiles à cinq branches qui se chevauchaient. Il y avait des cônes et des pyramides composites, seuls ou perchés au sommet de cylindres, de cubes ou d'autres cônes ou pyramides, aplatis et tronqués, et par endroits des flèches minces comme des aiguilles, curieusement groupées par cinq. Toutes ces structures hallucinatoires étaient reliées entre elles par des ponts tubulaires, striant le ciel à des hauteurs étourdissantes, et l'échelle générale de l'ensemble était terrifiante et oppressante par son seul gigantisme. Ce genre de mirage n'était pas sans rappeler les formes les plus démentielles observées et dessinées par le baleinier arctique Scoresby en 1820. Mais en ce lieu et à ce moment, avec ces montagnes noires inconnues s'élevant à des hauteurs invraisemblables, avec dans nos esprits cette découverte inattendue d'un monde ancien et le poids d'un désastre probable planant sur notre expédition, nous avons tous semblé y déchiffrer une trace de malignité latente et un présage infiniment funeste. À ma grande satisfaction, le mirage a fini par se déliter, bien que ses tourelles et ses cônes de cauchemar aient à ce moment pris des formes tourmentées plus hideuses encore. Alors que cette illusion se dissolvait en un tourbillon opalescent, nous avons à nouveau tourné nos regards vers la terre pour constater que notre voyage était presque terminé. Les montagnes inconnues s'élevaient devant nous à une hauteur vertigineuse, comme un rempart de géants, affichant leur curieuse régularité avec une clarté frappante même à l'œil nu. Maintenant nous abordions les premiers contreforts, et au milieu des neiges, de la glace et des zones de terre nue, nous avons distingué des points sombres qui devaient être le camp et les forages de Leike. Les contreforts les plus hauts s'étendaient à moins d'une dizaine de kilomètres de là, formant en eux-mêmes une chaîne presque distincte de la barre terrifiante des sommets qui s'élevaient au-delà, plus haut que l'Himalaya. Finalement, Ropes, l'étudiant qui avait remplacé MacTaggy aux commandes de l'appareil, a commencé à descendre vers le point sombre de gauche qui, au vu de sa taille, devait être le camp. Pendant ce temps, MacTaggy envoyait le dernier message radio non censuré que le monde devait recevoir de notre expédition. Bien sûr, tout le monde a lu les communiqués brefs et frustrants qui relataient le reste de notre séjour antarctique. Quelques heures après notre atterrissage, nous avons envoyé un rapport succinct de la tragédie que nous venions de découvrir, annonçant en termes soigneusement pesés que toute l'expédition de Leike avait été balayée par les terribles vents qui avaient soufflé la veille ou la nuit qui précédait. 11 morts et le jeune Jedney porté disparu. Le public nous a pardonné le manque de détails, l'attribuant au choc causé par cette triste découverte. Il nous a cru lorsque nous avons dit que le vent avait déchiqueté les cadavres au point de les rendre impropres à tout transport. De fait, je peux affirmer, la tête haute, qu'au milieu de notre détresse, de notre incrédulité et de notre épouvante, nous n'avons pratiquement jamais altéré la vérité. L'essentiel réside dans ce que nous n'avons pas osé dire, et que je garderai toujours pour moi, s'il ne fallait pas avertir les autres des terreurs innommables qui les attendent. Il est vrai que la tempête avait provoqué de terribles dégâts. On peut sérieusement douter que quiconque aurait pu y survivre, même s'il n'y avait rien eu d'autre. Cette tempête, charriant furieusement des particules de glace, devait avoir été plus violente que tout ce que notre expédition avait rencontré jusque-là. Un des abris à aéroplane était quasiment pulvérisé. Tous étaient dans un état de dévastation qui les rendait inutilisables, et le derrick, sur le site de forage, avait été totalement mis en pièces. Le métal des avions cloués au sol et des foreuses avait été abrasé par le vent au point d'être poli comme un miroir, et deux des petites tentes, malgré leur contrefort de neige, étaient complètement écrasées. Les surfaces de bois exposées au vent étaient râpées et dépouillées de leur peinture, et toutes les traces dans la neige avaient été effacées. Il est également vrai que nous n'avons retrouvé aucun des spécimens biologiques archéens qui soit en état d'être transporté, du moins pas en un seul morceau. Nous avons récupéré quelques échantillons de minéraux dans une grande pile, y compris plusieurs de ces fragments de stéatite verdâtre, dont l'étrange forme d'étoile à cinq branches et les groupes de points légèrement gravés avaient provoqué tant de spéculations douteuses, ainsi que quelques ossements fossiles, parmi lesquels les plus caractéristiques de ceux qui portaient des traces de blessures. Pas un seul chien n'avait survécu à la destruction presque complète de leur enclos construit à la hâte non loin du camp. Le vent pouvait en être responsable, bien que le plus gros des dégâts, situés dans une zone à l'abri du vent, suggérait une tentative frénétique des bêtes elles-mêmes pour se libérer. Les trois traîneaux avaient disparu, et nous avons tenté d'expliquer que le vent pouvait les avoir emportés dans l'inconnu. Les foreuses et la machine à fondre la glace étaient trop endommagées pour être récupérées, si bien que nous les avons utilisées pour colmater la troublante brèche vers le passé que Lake avait ouverte. De même, nous avons abandonné les deux avions les plus mal en point, puisque notre groupe de survivants ne comptait que quatre véritables pilotes en tout, Sherman, Danforth, McTighe et Ropes, Danforth étant en trop piteux état nerveux pour se charger de la navigation. Nous avons ramené tous les livres, les appareils scientifiques et autres accessoires que nous avons pu trouver, bien que l'essentiel ait été balayé. Les tentes supplémentaires et les fourrures de rechange avaient disparu ou étaient inutilisables. C'est aux alentours de 16 heures, après que le survol de toute la zone alentour nous ait forcé à considérer Jedney comme perdu, que nous avons envoyé notre message à l'Arkham pour qu'il le répercute. Et je pense que nous avons bien fait de le formuler de façon aussi calme et modérée que possible. Ce que nous avons dit de l'agitation de nos chiens, que la présence des spécimens mettait mal à l'aise, était prévisible après les rapports de ce pauvre Lake. Je crois que nous avons omis de mentionner qu'il ressentait la même nervosité quand il flairait les bizarres stéatites verdâtres et certains autres objets du corps ravagé, parmi lesquels des appareils scientifiques, des aéroplanes et des machineries dont les pièces, tant au campement que sur le site de forage, avaient été desserrées, déplacées ou dérangées par des vents qui semblaient avoir montré une curiosité inhabituelle.